Oh oui, on en jase. Ton émission d'actualité du midi sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal CV. À la météo, faible neige se changeant en averse de neige parfois forte cet après-midi avec des vents de 30 km/h pouvant se transformer en rafale à 50 km/h. Ce soir, cette nuit, averse de neige parfois forte cessant en fin de nuit. Demain, très belle journée, alternance de soleil et nuages, 30% de possibilité d'averse avec 1 degré. Et pour mercredi, c'est moins 4 degrés. Alternance de soleil et nuages. Circulation, Pascal?
Oui, bien, je dois vous dire que ça roule sur les routes en ce moment, mais je dois vous rappeler qu'il y a des travaux à la tête des ponts qui ont commencé aujourd'hui. À la sortie numéro 23, c'est l'avenue des Hôtels, jusqu'à la route 175 Boulevard Laurier en direction nord. Ça, c'est fermé jusqu'à juillet. Alors, c'est fermé jusqu'à temps que le soleil plombe sur nous.
C'est ça.
Le ministère des Transports a expliqué que c'est une entrave qui est requise. On réaménage la chaussée Libre-Bretelle de l'avenue des Hôtels. C'est dans le cadre de la construction du corridor pour autobus. Alors, voilà pourquoi on a à faire des détours. Avion d'Air Canada Jazz en provenance de Montréal qui est entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York hier soir. C'est la nouvelle de la journée. L'accident a fait 2 morts, soit le pilote et le copilote. Selon les médias américains, on rapporte qu'il y avait 41 personnes à l'hôpital dans les dernières minutes. L'aéroport a stoppé ses activités. On est en train de reprendre tranquillement pour cet après-midi. Mais quand même, on avertit la population qu'il y avait des perturbations importantes. Annulation de vol, ralentissement de circulation, présence accrue de services d'urgence. Je parlais ce matin à Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation. Est-ce qu'on aurait pu éviter le camion de pompiers dans lequel l'avion a foncé?
Non, c'est extrêmement difficile de réagir à ce moment-là. C'est un avion qui est en train de terminer sa course à l'atterrissage. On est en freinage. C'est extrêmement difficile. On est en ligne droite. C'est un avion qui est très pesant. Malgré que ce soit un jet régional, c'est très pesant. Vous avez un véhicule qui vous coupe la route. On a de la misère à réagir en voiture. Imaginez lorsque vous avez un avion là, qui pèse plusieurs dizaines de tonnes. C'est vraiment pas évident. Donc, puis, tu sais, en aviation, la clé pour se sauver du trouble, c'est toujours la vitesse et l'altitude. Alors, à l'atterrissage ou au décollage, c'est toujours des moments où on est extrêmement vulnérable.
160 km/h, c'est la vitesse à laquelle l'avion aurait foncé dans le camion de pompiers. Donc, quel accident tragique.
Oui, là, il y aura un autre enregistrement qui serait rendu disponible, Pascal. Et dans cet enregistrement-là, on entend un contrôleur routier dire « Je sais, j'y étais, j'ai tenté... » Un contrôleur routier, je suis sûr, contrôleur routier, contrôleur aérien. « Je sais, j'y étais, j'ai tenté de contacter pour les arrêter. » Nous avons une urgence ici, j'ai cafouillé. Et l'autre personne dit non, tu as fait de ton mieux, peut-on entendre sur cet enregistrement-là? Donc, évidemment, au compte-gouttes, on va avoir des nouvelles informations.
Oui, bien, reprenez l'entrevue qu'on a fait avec Charles-Éric Lamarche en début d'émission parce qu'il l'explique. Lui, il a tout écouté les bandes puis nous l'a résumé. Hein. Il dit arrêtez là, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Camion 1, arrêtez. Ils ont tenté, mais on a beaucoup d'explications par rapport aux bandes audio. Aujourd'hui aussi, que s'amorcent les audiences sur la loi sur la laïcité. C'est la loi 21 à la Cour suprême du Canada. Bon, tout ça, c'est 9 juges qui vont devoir se pencher sur la question de l'utilisation de la clause dérogatoire par les provinces canadiennes. Dans ce qui nous occupe, nous, là, cette clause-là doit permettre au gouvernement du Québec de placer la loi 21 à l'abri de contestation judiciaire, ce qui est énorme, en fait. Donald Trump a repris le micro dans les dernières heures. Il a dit qu'il avait le plaisir d'annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu, dans les derniers jours, des discussions fructueuses, constructives, en vue d'un règlement complet et définitif des hostilités avec le Moyen-Orient. Vous en pensez ce que vous voulez, mais est-ce qu'on peut se croiser les doigts et rêver à une trêve ou à une fin de cette guerre? Peut-être. Sinon, dans la politique plus près de chez vous et chez nous, Maïté Blanchette Vézina, l'ex-ministre caquiste qui est devenue élue indépendante, se joindrait au Parti conservateur du Québec et devrait faire l'annonce demain. Et pour Serge Bonin, au municipal, ben, il quitte Repensons Lévis pour le PQ.
On en parle immédiatement dans le caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iaccarini, normalement du lundi au jeudi entre midi et midi 30. On a Victor Henriquez avec nous aujourd'hui et Pascal en raison de cet accident d'avion à l'aéroport LaGuardia. On a déplacé le tout à 12h45 tapant. Victor Henriquez, comment vas-tu mon ami?
Ça va très bien, Jeff, toi?
Ça va super bien. Victor, Maïté Blanchette-Vézina, c'est enfin fait. le mariage avec Éric Duhaime, ce mariage qu'on attendait depuis des mois. Cela dit, c'est un excellent coup d'Éric Duhaime.
C'est un excellent coup d'Éric Duhaime. Ça va lui permettre de finir justement cette dernière session en force. Deuxième députée conservatrice après Claire Samson, qui avait fait un geste semblable à la fin de la dernière législature. Et en même temps, c'est la conclusion d'une fréquentation qu'on avait vu venir. Hein. On avait vu les premières dates après le départ de Maïté Blanchette-Vézina de la CAQ. On avait vu aussi la présence de Maïté Blanchette-Vézina au congrès du Parti conservateur. Donc, c'était écrit dans le ciel que ce moment-là allait arriver. Elle avait déjà dit son intention peut-être d'être candidate conservatrice. Ça va permettre à Éric Duhaime de rentrer à l'Assemblée nationale, d'avoir une députée conservatrice. Ça lui permet d'avoir du temps d'antenne, du temps de parole dans l'enceinte de l'Assemblée. Ça, c'est intéressant pour lui. Et ça vient un peu avec l'air d'aller qu'il y a en ce moment. Il est à égalité avec la coalition Unir Québec dans les sondages. Donc, on est dans une belle mouvance pour Éric Duhaime, qui peut, à la prochaine élection, espérer avoir plus qu'un comté d'ailleurs. Parce qu'on voit déjà dans Québec 125, il est en avance dans plusieurs comtés intéressants. On a du PCQ solide à plusieurs endroits. Donc, bravo pour cette prise. Maintenant, Mme Blanchette-Vézina aura fort à faire. Dans le comté de Rimouski, en ce moment, les prévisions donnent le PQ victorieux. Mais en étant candidate, en étant connue dans sa région, qui sait, hein, les chiffres vont bouger de toute façon d'ici l'élection.
Est-ce qu'on pourrait la parachuter ailleurs, Victor? C'est notre collègue Mathias qui a fait une recherche pour nous. Elle a habité 10 ans à Québec. Elle vient de Montmagny. Là, elle est à Rimouski. Quand on regarde, il y a des comtés à Québec prenables pour le PCQ. À Montmagny, le PCQ bataille fermement avec le PQ. C'est 2 % de différence sur Québec 125. T'attends-tu un parachutage?
Je m'attends à ce qu'on ait bien négocié du côté de Maïté Blanchette-Vézina. Alors là, il y a deux possibilités dans ce cas-ci. Soit elle veut finir en force et elle considère que soit elle est élue dans sa région natale ou est-ce qu'elle était déjà élue ou elle préfère ne pas continuer en politique, ou elle a l'intention de faire de la politique à long terme et là, on va avoir un changement de comté dans son cas. Comme tu dis, très certainement, Montmagny, il y a plusieurs autres options dans la région de Québec, mais un comté où est-ce qu'on est déjà plus proche d'avoir une représentation du Parti conservateur. On va vouloir partir avec quelque chose d'un peu plus solide si elle désire rester députée. Si elle veut rester à Rimouski, ben là, on aura le signe que peut-être que de son côté, elle préfère prendre le risque, quitte à ne pas être députée à la prochaine législature.
Victor, autre dossier. Serge Bonin, le chef de Repensons Lévis. Faut clarifier. À Lévis, lorsqu'on n'est pas élu maire, comme c'est arrivé à Serge Bonin, il n'y a pas de colistier. Donc, il n'était plus membre du conseil de ville. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il annonce quitter la direction de Repensons Lévis pour tenter de se présenter pour le Parti québécois dans Chute de la Chaudière.
C'est mêlant, ça, pour les gens.
C'est très mêlant
pour moi.
C'est pour ça que je voulais le spécifier, parce que normalement, on se dit, ben voyons, c'est le chef de l'opposition à Lévis, fait que là, il sac son camp de la ville
on
pour aller au provincial.
On peut le prendre même négativement, parce qu'on se dit, Colin, on t'est quand même élu comme étant l'opposition, puis tu nous représenter si on voulait pas que ce soit M.
Exactement, mais il n'a pas été élu aux dernières élections. Alors, décide d'aller dans Chute de la Chaudière. Là aussi, c'est une lutte à finir entre le PQ et le PCQ, selon Québec 125. Bonne candidature pour le PQ, selon moi. C'est un gars bien connu dans la région.
Oui, candidature intéressante dans la région, candidature connue dans ce secteur-là. Je suis d'accord avec toi, Pascal, il va y avoir de la critique sur le fait de dire ben, pourquoi je suis de la Chaudière, pourquoi pas rester dans ce coin de Lévis où est-ce qu'il y avait des assises. Alors, il sera déjà ouvert à la critique. Le Parti conservateur va certainement présenter une candidature de qualité dans Chute de la Chaudière, puisque en ce moment, c'est un PCQ en clair, donc on peut attirer quelqu'un de haut niveau. Alors, ça va être une course intéressante. C'est un nom qui résonne beaucoup dans la région, qui résonne moins à l'extérieur. Et ça va être important aussi au PQ d'avoir des candidats très forts régionalement parlant. Ça va permettre... C'est le genre de candidat qui rejaillit sur plus qu'un comté. Hein. Tu le présentes dans Chute de la Chaudière, mais ça peut avoir un effet intéressant dans Lévis aussi. Donc, c'est là où est-ce que il y a des espèces de bases communicantes dans ces régions-là. Alors, on passe le message au PQ qu'on est capable d'attirer de bonnes personnes, mais des gens d'expérience et de terrain aussi.
Victor, est-ce que la majorité du prochain gouvernement provincial va jouer dans la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches avec ces batailles-là, PQ, PCQ?
Tu vois, c'est un peu tôt pour faire cette prédiction-là, mais ça fait partie pour moi des grands endroits à surveiller. C'est sûr que si le Parti conservateur fait une razzia dans la rive sud de Québec, et là je parle de la Beauce, je parle de Chaudière-Appalaches, je parle de la grande rive sud, okay, on va le présenter comme ça, là, de façon élargie, c'est sûr qu'à ce moment-là, la possibilité d'un gouvernement majoritaire s'éloigne pour le Parti québécois. Ça va jouer aussi dans quelques autres régions. Je pense notamment à l'Estrie, je pense à la Mauricie, je pense à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des régions comme celle-là où est-ce que du côté du PQ, pour atteindre une majorité forte, on a besoin d'aller faire le plein dans ces régions-là. Mais oui, la rive sud de Québec sera certainement centrale. Et on aura à voir aussi, dépendant des choix à la chefferie de la coalition Avenir Québec, quelle sera la mouvance de cet électorat-là? Parce qu'il y a clairement aussi des vases communicants potentiels entre le PCQ et la CAQ, si Bernard Drinville est chef. Mais ces vases-là sont beaucoup moins forts si Christine Fréchette est chef. Donc, ce sera là où est-ce qu'on pourra voir l'évolution de la chose.
J'aime que tu m'amènes à Bernard Drinville et Christine Fréchette parce qu'il y avait un débat samedi. Pascal, as-tu écouté ça?
Oui, j'ai écouté ça.
Oui.
Puis
Victor, tu l'as regardé
moi
aussi?
aussi.
Oui, moi
Tout à
aussi.
fait.
Puis, vous avez été emballé, le popcorn, la bière? C'était divertissant?
Pas tant que ça.
Non?
J'ai déjà vu.
T'as bien compris mon sarcasme?
Oui, j'ai déjà vu plus excitant, puis pas besoin d'aller dans l'extrême.
Non, c'est ça. Victor, tu es du même avis que nous?
La bière, c'était un peu tôt, mais je l'ai trouvé bon, moi, le débat. Moi, je t'avoue
Parfait.
que j'avais écouté le débat des libéraux. Clairement, à
Ouais,
5,
c'est vrai que c'était
après
mieux.
10 minutes, je n'étais plus capable. On
Ouais,
va se le dire, la
j'assistais
vérité.
à celui à Québec, puis ça a duré 1 heure et demie de supplice mental.
C'est trop dur pour moi. J'ai pas réussi à en finir un seul, puis il y en a eu plusieurs. Du côté du débat de samedi, je l'ai écouté au complet, je l'ai trouvé intéressant. Je trouvais qu'il était super indicatif. Moi, j'ai vu deux CAQ. J'ai vu la CAQ de Christine Fréchette, qui va essayer de manger le lunch de Charles Millard. Puis j'ai vu la CAQ de Bernard Drinville qui va essayer de manger le lunch d'Éric Duhaime. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas juste un choix de chef ici. Là. On a littéralement un choix de philosophie politique. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on connaît la CAQ comme le parti de François Legault. Mais là, c'est un parti qui va essayer de se positionner sur l'échiquier. Ça va être une compétition directe avec Éric Duhaime parce que tu sais quoi? Éric Duhaime sera plus expérimenté comme chef que le ou la prochaine chef de la CAQ.
Puis, sais-tu quoi? Ça me ramène là, dans un moment de ma vie, une époque de ma vie où Bernard Drinville et Éric Duhaime faisaient une émission encore ensemble, donc se posaient quotidiennement sur des enjeux qui reviennent dans l'actualité maintenant que les deux sont en politique. Si jamais Bernard Drinville remporte la course à la chefferie, ce qui n'est pas selon les sondages la première chose qui pourrait arriver, t'as raison, Victor, on va voir, le Québec serait découpé d'une autre manière au niveau idéologie, là.
Oui, puis il risque de s'obstiner un peu moins en politique qu'il s'obstinait à radio dans le temps, parce que moi, j'ai vu aussi Bernard Drinville évoluer. Je soupçonne Éric Duhaime d'avoir eu beaucoup d'influence auprès de lui, si on l'écoute maintenant, dans ses années de radio. Finalement, il écoutait peut-être plus qu'on le pense, Bernard.
T'as entièrement raison. Victor, je te fais entendre, c'est un 55 secondes. C'est Mathias Turcotte, notre journaliste, qui était sur le terrain samedi et qui est allé recueillir les réactions des membres de la CAQ après le débat.
Je ne peux pas dire qu'on a appris beaucoup de choses nouvelles. Là. Ça a consolidé les positions qu'on connaît des gens. Puis nous, on appuie sans réserve Mme Fréchette. Fait que c'est pas ce débat-là qui nous fait changer d'idée.
Que M. Drinville répond plus aux questions, franchement. Il dit vraiment ça, le fond de sa pensée.
Bon, je pense qu'on a plus de chances d'avoir du changement avec M. Drinville, moi aussi. Il répond plus directement aux questions.
Bien aimé les réponses de Mme Fréchette.
Honnêtement, moi, je trouve que M. Drinville a été très, très solide là, pendant le débat. On s'entend en maîtrise de ses dossiers.
C'est quand même un débat équilibré. Et je pense que chaque candidat a sa chance d'abord.
Ben, moi, je vous dirais que au départ, tu sais, j'étais plus Madame Fréchette, tu sais, parce que bon, on connaissait Bernard pour ses positions et tout, mais que quand tu écoutes les débats et tout ça, tu te rends compte que Bernard est. En tout cas, moi, oui, ça va changer ma position, assurément.
Bon, je sais qu'on est à Québec, je sais qu'on est dans le fief de Bernard Drinville, mais il est-tu en train de faire tourner le vent de bord, notre ami Bernard?
Ça va prendre plus que ça pour faire tourner le vent, d'après moi. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que pour moi, samedi, il a remporté ce débat. Il a fait une très bonne performance. Son ton a changé aussi. Clairement, du côté de Bernard Drinville et de son équipe, on a bien compris que les attaques contre Christine Fréchette avaient été peut-être un peu loin dans les dernières semaines. Puis on a voulu ramener le ton à quelque chose d'un peu plus civilisé. Madame Fréchette, d'ailleurs, a été la première à porter une attaque, hein, cette fameuse attaque sur le troisième lien, puis l'ego de Bernard Drinville en disant on ne choisit pas un
On l'écoute
constituant.
d'ailleurs, Victor, cette attaque-là.
Allons-y.
Par rapport au troisième lien, ben moi, j'ai fait ta job, je dirais Bernard, parce que j'ai appelé les gens pour les consulter. Et rapidement, je me suis fait dire qu'ils n'avaient jamais été appelés, même à Lévis. Alors, c'est important qu'on les entende, ces gens-là. Le tracé, là, on le choisit pour eux, pour les gens qui sont ici, pas pour toi, pas pour ton ego, pour les gens qui vont l'utiliser, ce troisième lien.
Hey, je trouve ça tellement comment dire, je veux pas dire sauvage, mais je veux dire sauvage, entre les deux en ce moment-là, il y a une fracture quand même importante. Ils se piquaient littéralement, puis tu le vois aussi dans les gens qui assistaient, là, il y a une fracture qui s'est créée, non?
Ben, c'est sûr qu'il y a une fracture, puis c'est sûr que c'est ça que ça fait une course à la chefferie. Et puis, t'sais, moi, j'ai adoré ce moment-là parce que pour les partisans de Christine Fréchette, c'est un moment où est-ce qu'ils se sont dit « OK, elle est capable d'aller boxer ». Et ça, c'était important pour Christine Fréchette de montrer que si on avait besoin de monter le ton, si on avait besoin d'amener un peu plus de rigidité dans l'attaque, puis qu'on avait besoin d'être un petit peu plus piquant dans les propos, elle était capable d'y aller. Bernard Drainville a repris la balle au bon. Ça, là-dessus, c'est une expérience qui rentre. Hein. Tu sais, c'est un format qu'on voyait Bernard Drainville contrôler. Tout de suite, Bernard Drainville a dit, Christine, je recommande de ne pas aller dans le personnel. Et là, ce qui arrive, c'est comment tu positionnes ton attaque. Et son attaque a été positionnée à Mme Fréchette à un moment donné où Bernard Drainville pouvait répliquer. Tu ne donnes pas une balle en plein centre du marbre à un gars de cette expérience-là. Il l'a repris assez rapidement. Mais tu sais quoi? Tout le monde est sorti de cette attaque-là satisfait. Ça nous a donné le ton. Bernard Drainville n'a pas répliqué de cette façon-là et il ne devait pas le faire. Donc ça, là-dessus, il a été très bon. Alors oui, c'est un format qui l'a favorisé. C'est un exercice dans lequel il a très bien paru. Maintenant, est-ce que ça va permettre de non seulement changer les indécis de bord, parce qu'on sait qu'il y en a à la Coalition Avenir Québec, mais ça va prendre des gens qui appuyaient Christine Fréchette qui tout d'un coup vont s'en aller appuyer Bernard Drainville, d'après ce qu'on comprend dans les sondages actuels. Donc, peut-être que ce ne sera pas assez. Maintenant, il y a une chose, si c'est le début et que samedi, on voit un autre débat, parce que Bernard Drainville prend le dessus sur Christine Fréchette, sur des sujets-là qui seront beaucoup plus terrain, santé, éducation, immigration, là, on pourra avoir une mouvance qui se prolonge jusqu'au 12 avril prochain.
Oui, quand tu parles de Bernard Drainville qui s'est assagi face à sa critique envers Christine Fréchette, en voici un bel exemple.
J'ai noté qu'à deux reprises, vous avez dit « ça prend pas des propositions beige, ça prend pas un candidat beige mm-hmm. ». C'est une manière plus ou moins subtile de dépeindre votre adversaire comme étant beige. C'est comme ça que vous la trouvez, c'est ça?
Écoutez, c'est votre analyse.
Ah oui?
Ben oui, c'est votre analyse. Moi, je vous dis juste qu'on n'est pas beige.
Je ne suis pas beige, mais je traite pas Christine Fréchette de beige.
C'est votre analyse.
C'est votre analyse, c'est bien fait.
Je vous dis pas que vous avez tort.
C'est ça.
Mais je vous dis pas que vous avez tort. Je vous dis pas que vous êtes dans le champ, puis je vous dis pas que je n'aime pas ce que vous me posez comme question.
C'est une belle façon de pas trop être dur envers Madame Fréchette. En terminant, Victor, en une minute, c'est commencé pour 4 jours. C'est les audiences devant la Cour suprême pour la loi 21 sur la laïcité. Tu t'attends à quoi? Il va y avoir une coupe de freak show là-dedans ou ça devrait être pas si pire?
Non, ça devrait être intéressant, puis je m'attends à ce que ça parte dans deux sens, parce que tu sais, il y a deux choses ici qu'on regarde. Il y a du monde qui vont plaider sur le fond de la loi 21, hein, l'aspect discriminatoire de la loi et tout ça. Mais la réalité, c'est que la Cour suprême, principalement, ce qu'elle va regarder, c'est est-ce que tu peux, dans une loi, intégrer à la base la clause dérogatoire. Donc, ce qui dit aux gens, de toute façon, même si tu contestes la loi, tu ne pourras pas la changer. Ça, le but, c'est de décourager les gens de contester la loi. Et là, la Cour suprême doit prendre une décision qui va être hyper importante pour la notion de fédéralisme. Parce que le Québec, ce n'est pas le seul qui utilise la clause dérogatoire. Hein. Les provinces l'utilisent de plus en plus. Et là, ce que le fédéral dit, c'est ben, tu es supposé l'utiliser après que ta loi soit contestée. Pas avant même qu'elle soit contestée, sinon tu décourages le fond. Et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est la relation qui va changer, la relation qu'on a avec justement la Charte des droits et tout ça qui peut changer à travers ça. Et bien entendu, il y aura aussi le fond de la loi 21 sur lequel, moi, je pense que la Cour suprême va être plus prudente, par exemple, parce que c'est là où est-ce qu'on ne voudra pas donner de matériel. Une chose est claire pour tout le monde, on va en entendre parler cette semaine et après ça, ça va peut prendre plusieurs longs mois avant d'avoir une réponse et je vous garantis que ça ne sortira pas en plein milieu d'une campagne électorale. Donc, attendez-vous à ce que ce soit plus à la fin de l'année ou en début d'année prochaine de ce côté-là.
Victor Henriques, merci beaucoup d'avoir frappé en relève à Antonine Iaccarini. Merci d'avoir accepté de déplacer le moment pour cet accident d'avion, on le rappelle, à LaGuardia Aéroport dans la région de New York.
Tu me donnes juste une seconde, j'allais chanter Bonne fête à Pascal.
Bien sûr, vas-y.
Je respecte nos auditeurs, je ne chanterai pas, mais bonne fête Pascal et je te souhaite une merveilleuse journée.
Merci Victor.
J'adore Victor Henriques. Max devrait prendre exemple sur Victor, il ne chante pas.
Mais Victor, je peux prendre un message audio, pas de problème sur mon cellulaire, t'as mon numéro.
dans quelques secondes.
Salut Victor, merci beaucoup. Salut. Vous le savez, à Boulevard 101, je vous dis abonnez-vous à votre page YouTube pour voir nos podcasts et c'est justement présentement sur nos ondes. Et ça sera diffusé ce soir à 19h, le podcast Histoire d'entrepreneur avec Joannie Fortin, notre collègue de Weekend Radio. Et pour le quatrième épisode, Joannie s'entretient avec Marie-André et Geneviève Turgeon, deux sœurs à la personnalité colorée de la famille propriétaire de l'auberge La Gouéliche à l'île d'Orléans.
Ça quelle auberge, l'adore!
Et puis ça, pour être coloré, sont colorés, je les ai déjà rencontrés, sont très drôles, les sœurs Turgeon. L'histoire remonte au milieu du 21e siècle, successivement rebaptisée et entretenue par diverses familles au fil des décennies, après un incendie tragique qui a détruit entièrement le bâtiment en 1996. Il a été reconstruit avec élégance et rouvert en 1997. Et depuis, Marie-André et Geneviève poursuivent avec passion cette aventure d'hospitalité et de restauration ancrée dans le patrimoine local. J'avais dit 21e siècle, mais c'est 20e siècle, pardonnez-moi. C'est commandité par équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion privée de patrimoine, la planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Si ce n'est pas le cas, rencontrez-en un qui le fera, équipemarcantoinereed.com. Après la pause, Pascal, on a perdu ce vendredi un grand du sport au Québec, Roger Brulotte. On va s'entretenir avec son comparse des peut-être des 40 dernières années, Jacques Doucet. J'ai très hâte à cette entrevue. Et pour s'y rendre, on écoute le personnage Roger Brulotte.
5-9 avec un circuit en carrière face à Anthony Young. La balle est frappée. C'est les bandes d'action de champ gauche. À la piste de l'avertissement, circuit. Larry Walker. Loin dans la gauche. Les Expos à trois. Match des Pirates. Larry Walker.
Après la pause, Jacques Doucet, qui a entendu ça dans ses écouteurs pendant 40 ans, les cris de Roger Brulotte, sera avec nous pour parler de son grand comparse qui nous a quittés à l'âge de 79 ans. Vendredi dernier, c'est à l'émission On en jase sur Boulevard 102.